Donc aujourd'hui, la vie de Jérôme Savonarole. Donc pourquoi? Parce que, sans revenir à l'hypothèse que l'homme et l'œuvre, s'éclairent réciproquement, hein, en tout cas, il est très clair pour les textes qu'on a au programme que les insérer dans, des parcours politiques, historiques, et parfois, qui ont trait à l'histoire militaire également, est absolument décisif parce que tous ces textes-là, les trois qu'on a en programme, sont d'une certaine façon des textes d'intervention suscités directement par une conjoncture spécifique. Ils sont donc, pour reprendre les termes que maintenant vous connaissez, insérés dans une qualité des thèmes, puis una condizione des thèmes, puis qui détermine fortement leur forme et leur contenu. Donc le texte que nous étudierons bientôt de frère Jérôme de Ferrare, hein, frate Girolamo Savonarole de Ferrare, hein, son trattato, vous savez, est complètement lié à ce moment qu'on a déjà abordé rapidement de la mise en place de la République du Grand Conseil et d'un moment où Savonarole et ses partisans, les piagnoni ou les frateschi, comme on dit à l'époque, hein, jouent un rôle déterminant entre 1494 et 1498. Et vous savez que le trattato est écrit à la toute fin du processus, hein, quelques mois avant la chute de Savonarole, son emprisonnement, son procès, sa condamnation à mort en mai 1498. Et il est écrit au tout début de l'année 1498, à la demande d'un des derniers gonfalonniers piagnoni, hein, Giuliano Salviati, qui, donc, à un moment où Savonarole ne peut pas prêcher parce que le pape lui a interdit et l'a même excommunié, hein, donc, il demande d'intervenir par écrit, hein, pour refaire le point sur le sens de la mise en place de la République du Grand Conseil et ce point donc est le terme du processus. Donc on a absolument la nécessité de réinsérer ce texte de la fin dans le processus complet. Hein, donc on n'insistera pas sur ce que fait Girolamo Savonarole avant d'être à Florence, mais on va reprendre un peu les grands moments. Donc voilà, des trois auteurs que nous avons au programme, c'est le seul qui ne soit pas un Florentin avec marqué Florentin, quoi. C'est un Ferrarais. Hein. Voilà les quelques mots que nous dit Francesco Guicciardini, hein, qui montre un peu la façon dont Girolamo Savonarole est perçu à Florence. Donc un texte de Guicciardini, de Storia Fiorentina, donc écrit, vous savez, par Guicciardini en 1508-1509. Hein. Ouais. Fu fra Girolamo da Ferrara di famiglia Savonarola, famiglia popolana e mediocre, il quale studiando, non, mediocre pas dans un sens négatif, mais dans un sens simplement uomini di mezzo, enfin, des gens qui ne sont ni dans les grands, ni dans la plèbe. Il quale studiando in arte si fece dei frati di San Domenico osservanti, e dopo qualche tempo, avendo fatto profitto grandissimo in filosofia, ma maggiore nella scrittura sacra, ne venne a Firenze, dove, sino a tempo di Lorenzo, cominciò a predicare pubblicamente, accennando con destrezza però a avere a venire grandissimi flagelli e tribolazione. Alors, il arrive en fait, il y a un premier séjour de 5 ans à Florence, hein. Il arrive en 1482, il est lecteur, donc c'est lui qui enseigne l'écriture et la philosophie, évidemment la philosophie de Thomas d'Aquin, hein, aux frères et aux novices du couvent de San Marco. Et il commence à révéler son message prophétique à partir de 1484. Hein. Donc le sens général, c'est l'Église doit se renouveler, hein, rinnovare, trouver une forme nouvelle. Hein, et pour qu'il y ait cette rénovation, il faudra des fléaux. Hein. La Chiesa sera flagellata. Ouais. Et c'est pas dans longtemps. Enfin bon, on sait depuis le début qu'il y aura l'Apocalypse, etc. Mais là les temps sont proches. Hein. Là, les temps sont proches. Donc, 84-85, il y a cette... hein, c'est « Cominciò a predicare pubblicamente, accennando a ver avvenir grandissimi flagelli e tribolazione. » Mais flagelli et tribolazione qui ont pour fonction ce renouvellement, hein, cette transformation positive de l'Église. Alors là, il est renvoyé par l'ordre à Bologne, ce qui n'est pas une sanction, c'est un point naturel, c'est-à-dire qu'un membre de l'ordre des dominicains, donc ordo predicatorum, hein, l'ordre des prêcheurs, obéit à son ordre, il est itinérant, donc on l'envoie là où on pense qu'il sera le plus utile. Et on peut dire que un des points importants dans notre réflexion, c'est que précisément il va lui à un moment donné être choisi par Florence, hein. C'est-à-dire qu'il va revenir à Florence à la demande de Laurent de Médicis, qui a été convaincu à faire cette démarche auprès de l'ordre par Pic de la Mirandole, hein, qui apprécie le savoir philosophique et le savoir des écritures de Girolamo Savonarola, et donc convainc Laurent de Médicis, qui écrit au ministre général des Dominicains en 1489, et le ministre général de l'ordre accepte la demande de Laurent de Médicis. Et donc Savonarole revient à Florence en début juin 1490, et il recommence sa prédication prophétique avec ces trois points centraux. La réforme de l'Église est nécessaire, il faut que l'Église et les Italiens, etc., soient flagellés, il faut que vienne un fléau pour permettre cette réforme, et les temps sont proches. Alors, processus va durer donc les 2 ans là qui suivent, pendant lesquels Laurent est là. Bon, on nous explique dans les textes que Laurent n'est pas complètement convaincu des prédictions du frère, mais en même temps le frère lui sert pour une demande importante, qui est la demande d'autonomie de la congrégation dominicaine florentine. Hein. Jusqu'à ce moment-là, le couvent des observants dominicains de Saint-Marc est sous la domination, enfin en tout cas sous le contrôle de la congrégation lombarde. Hein. Et donc là, cette volonté d'autonomie et de constitution d'une congrégation florentine est importante. Parce que, évidemment, Milan, Venise, Gênes, Ferrare s'opposent au projet de séparation et que c'est vraiment une demande à la fois du frère qui est élu très peu, un an après son arrivée, hein, prieur, non, le premier, hein, le prieur de Saint-Marc, et qui donc mène avec l'aide des Médicis qui mènent le travail pour tenter de convaincre l'ordre d'accepter le projet de séparation. Le projet de séparation sera accepté en mai 1493, donc pendant la période de domination de Pierre de Médicis, hein, puisque vous vous en souvenez, Laurent de Médicis meurt le 8 avril 1492. Alors, là, on a une situation qui est que la présence de Savonarole lui vaut une image pratiquement de sainteté. Hein, de science, de connaissance énorme de la philosophie thomiste, d'Aristote, et puis surtout une connaissance très 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 intime des Écritures, et puis de sainteté au sens où voilà, le couvent des Dominicains de San Marco est régi avec une grande fermeté, une grande rigueur, et qu'il y a un effet très, très fort dans la population florentine. Le texte, deux textes pour le montrer, le texte de la Storia Fiorentina de Guicciardini. Ed avendo già fra Ieronimo acquistato nel popolo credito di dottrina, hein, donc de science, de connaissance, des Écritures saintes, de la philosophie. Et Santità, morì Lorenzo, e lui seguitò a tempo di Piero, tuttavia allargandosi più nel predicare e predicendo la rinnovazione della Chiesa, un flagello presto a Italia, nel quale verrebbero nazioni barbare, che piglierebbero le fortezze con le meluzze ed espugnerebbero ogni cosa. Hein? Prendrait les forteresses aussi aisément que l'on cueille de très mignonnes petites pommes sur les arbres. Hein? Et les barbares vont venir. Ça va être ça, le fléau. Le fléau de Dieu. Hein? Alors, une autre citation qui montre en effet qu'en gros cette réputation d'homme de Dieu, d'homme qui parle, d'homme par la bouche duquel parle le Seigneur, est très largement répandue. C'est ce que Machiavel nous dit dans Discorsi, livre 1, chapitre 56. Alors, chapitre qu'il faut relire pour avoir une idée de ce que pense vraiment Machiavel. C'est-à-dire, hein, c'est pas, il y a des points sur lesquels, évidemment, on a tendance à voir dans Machiavel l'esprit, une grande rationalité, etc. Bon, malgré tout, ils pensent qu'il y a des esprits dans les airs qui peuvent annoncer les choses futures. Quoi, hein. Donc, il faut avoir ça en tête quand on, a l'idée de Machiavel, théoricien rationnel de la politique. On pense à ça aussi. Enfin, bon, le président des États-Unis a eu lui aussi une révélation directe. Donc, bon, ça marche encore. Hein, mais enfin, là, on le prend pas comme un, penseur rationnel de la politique, le président des États-Unis. Parce que Machiavel, oui. Donde è in Asca, io non so, ma i si vede per gli antichi, per i moderni esempi, che mai non venne alcuno grave accidente in una città o in una provincia che non sia stato o da indovini, o da rivelazioni, o da prodigi, o da altri segni celesti, predetto. E per non mi discostare da casa nel provare questo, sa ciascuno quanto da frate Girolamo Savonarola fosse predetta innanzi avvenuta del re Carlo VIII di Francia in Italia. Hein? Donc, les Florentins, Machiavel, comme les autres, pensent que, en effet, cette prédication de Savonarole hein, a précédé la venue du roi de France, Charles VIII, et l'a annoncé. Que c'était une parole, alors on ne sait pas pourquoi, dit Machiavel, les autres disent, on sait très bien pourquoi, c'est parce que Dieu le lui a dit, hein, mais en tout cas, le fait est là, et personne ne le met en doute. Sa ciascuno. Alors, un point important qui renforce, hein, qui renforce la croyance des Florentins, c'est que deux jours avant la mort de Laurent de Médicis, alors il y a un signe divin incontestable, hein, c'est que la foudre frappe la lanterne de la cathédrale, hein, la coupole du dôme. Et donc là, ça annonce, ça c'est une annonce incontestable d'événements voulus par Dieu. Hein, voilà. Et dans son sermon de ce jour, Savonarole a cette formule, hein, voici le glaive du Seigneur sur la terre, hein, qui menace la terre, et il va venir immédiatement. Hein, il y a un redoublement synonymique. Chito et velociter. Hein, vite et rapidement. Ecce voilà. Gladius Domini super terram, chito et velociter. Voilà. Alors, seguitò allargandosi più nel predicare, hein, après la mort de Laurent. Après la mort de Laurent. Et donc, il a cette réputation dans la cité. Il a une façon de prêcher dont tout le monde estime qu'elle est spécifique. Elle n'est pas dans les canons habituels des autres prédicateurs florentins, ou des autres prédicateurs à Florence. Et on a un petit passage que je vais vous lire, qui est de Bartolomeo Cerretani, dans une de ses Storie Fiorentine, hein, de cette floraison d'écriture historiographique qui viennent de ce que voilà, les temps nouveaux amènent les gens à essayer de comprendre ce qui se passe. Enfin, c'est une de ses productions. Donc, Bartolomeo Cerretani écrit à propos de la prédication savonarolienne « Introdusse quasi nuovo modo di pronunciare il verbo di Dio, cioè all'apostolesca, hein, à la façon des apôtres, senza dividere il sermone, non proponendo questione, fuggendo il cantare gli ornamenti d'eloquenzie, solo il suo fine era esporre qualcosa del Vecchio Testamento e introdurre la semplicità della primitiva Chiesa. molto le delizie del vestire, degli ornamenti di casa, detestando, con discorsi infocati, arditi, furibondi e pieni di spirito, in modo che, essendo perfettissimo tomista e terminando e provando le sue posizioni bene, non mancava d'uditori e uomini di buona dottrina. No? Quelli in capacité à lire les écritures en lien avec les fondements de la philosophie de Thomas d'Aquin, hein, perfectissimo thomiste. Donc, une argumentation philosophique, hein, terminando et provando les sue posizioni bene, qui lui vaut donc d'être très bien reçu, en particulier par les lettrés, hein, qui apprécient ses connaissances et sa capacité de réflexion. Hein. Non mancava d'uditori et uomini di buona dottrina. Et puis, le retour à la simplicité de la primitiva Chiesa, hein, qui est donc vraiment le fond même de l'hypothèse du renouvellement. Hein. Vous noterez que quelque chose de ça, mais dans un domaine d'où le religieux est exclu, qui est le domaine strictement politique, se retrouvera chez Machiavel quand il dit il faut repartir du début, il faut repartir des débuts de la République, hein, il faut ripigliare, hein, il faut repartir ai primi principi. Quelque chose de ça se reste, hein, dans cette idée que le renouvellement, c'est quelque chose, un retour à une vérité des origines. Alors là, on est dans le domaine du religieux, mais cette hypothèse-là va se retrouver chez un Machiavel. Beaucoup moins chez un Guicciardini, qui est plus un pragmatique que Machiavel. Mais chez Machiavel, on a, en particulier dans les Discorsi, des passages de ce type. Alors, vous voyez un peu la situation. Donc, là, le passage donc en 1493, ottenne da Alessandro Papa, non, c'est Alexandre VI Borgia, uno breve, benché con grandissima difficoltà. Vous expliquez, hein, qu'évidemment les Milanais, mais aussi les Vénitiens, les Génois, les Ferrarais étaient opposés à cette hypothèse, que la Congregazione dei Frati Predicatori di Firenze e di altri conventi di Toscana si separassi da quella di Lombardia e si reggessi da sé. E allora, ce qui est tout aussi important que cette décision, hein, je vous rappelle qu'elle est du 22 mai 1493, la remarque de Francesco Guicciardini, qui est cette idée que là, il devient florentin. En tout cas, il va rester à Florence. La quale cosa lo fermò a Firenze e gli tolse l'aversi a mutare, come il più delle volte di anno in anno fanno i frati. C'est-à-dire qu'avec cette décision politique qui a été très soutenue par Laurent, puis par Piero, puisque c'est à l'époque du gouvernement de Piero de Medici qu'elle est obtenue. Eh bien, cette décision-là fait que le prieur de Saint-Marc est désormais ancré dans la cité de Florence, et il n'est plus simplement un frère comme les autres, amené à prêcher là un jour, mais ailleurs le mois suivant ou l'année suivante. Alors, au moment de ça, l'automne 1494, vous savez qu'il y a le départ forcé de Piero de Medici, et puis le débat sur la forme du gouvernement. Et là, le point de vue, hein, de point de vue des Florentins, est incontestable. Savonarole joue un rôle déterminant. Alors, là, je vous ai mis deux citations de Guicciardini qui montrent que cette façon de voir et d'analyser le rôle déterminant de Savonarole au moment de la mise en place du Grand Conseil en novembre-décembre 1494 demeure, hein, alors même que les années ont passé, puisque le premier texte est un texte des Storie Fiorentini 1508-1509, le deuxième texte est tiré de la Storia d'Italia, qui est écrite entre 1535-1537 et la mort de Guicciardini en 1540. Hein, donc, est publié après sa mort. Et là, il y a vraiment... C'est une idée communément présente sur le rôle décisif de Savonarole dans ce moment-là. Peut-être une petite différence entre les deux textes, mais là, elle n'apparaîtra pas dans les citations que je vais vous lire, c'est que dans les Storie Fiorentine 1508-1509, Guicciardini tend à faire de Savonarole, certes, quelqu'un qui a un rôle déterminant, mais un rôle déterminant comme instrument, comme outil d'une partie des grandes familles de Florence, un instrument presque involontaire, enfin, d'une contradiction à l'intérieur des Grandi. Ce qui est sûr, c'est que la contradiction à l'intérieur des Grandi, elle existait entre ceux qui voulaient simplement revenir aux formes institutionnelles antérieures à la domination médicéenne, hein, et ceux qui estimaient qu'il fallait introduire des nouveautés et que ces nouveautés, on pouvait aller les chercher à Venise, et en particulier cette hypothèse du Consiglio Grande. Alors, première citation. « In sulla cacciata di Piero, parlando apertamente », donc le « apertamente », il est sur le fait que c'est différent avec sa façon d'avant. Il a dit, vous rappelez que c'était « accennando con destrezza » avant. Hein? « Accennando con destrezza ». Maintenant, c'est plus « accennando con destrezza », c'est parlando apertamente e dicendo avere da Dio quelle cose future che egli prediceva, no? On a un stade ultérieur de la prédication, no? Qui est lié au fait que les fléaux s'approchent, c'est-à-dire que là après restera, ça sera un des points sur lesquels on reviendra dans cette série de cours sur Savonarole, c'est la question de la prophétie. On peut très bien, à partir du moment où on a l'hypothèse, qui est une hypothèse savonarolienne très nette, mais qui est aussi, à l'époque, une des hypothèses orthodoxes de la religion catholique, avoir l'hypothèse de la prophétie conditionnée. C'est-à-dire que si on fait telle et telle chose, le Seigneur réalisera telle et telle chose espèce de dialectique entre l'action des hommes, l'action de la communauté chrétienne et l'action de Dieu. Hein. Donc là, les Français sont là. Les Français sont là, ils sont aux portes de Florence. Hein. C'est leur venue qui a fait que se termine là. Les 60 années de domination des Médicis, et donc, du coup, Savonarole peut se sentir autorisé à parler ouvertement. Donc, première remarque, c'est ça. Deuxième remarque, « Avendo una audienza e una fede grandissima ». Ça, c'est la suite de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, cette réputation à la fois de doctrina et de santità. volto sia alla conservazione dei cittadini ed a fare usare la clemenza, cominciò a predicare per parte di Dio che Dio, non gli uomini, era quello che aveva liberato la città dalla tirannide e che Dio voleva si mantenesse libera e si riducesse a uno governo popolare alla veneziana, il quale era più naturale a questa terra che alcuno altro. No. Vous reconnaissez là certaines des thématiques qui vont être présentes 4 ans plus tard dans le traité. Cette idée vient de Dieu, cette forme de gouvernement populaire à la vénitienne vient de Dieu. Alors, 30 ans plus tard, Guicciardini écrit de nouveau Arrebbe dei consigli, il fait à peu près la même analyse, nei quali non interveniva numero molto grande di cittadini, potuto più quella sentenza che tendeva alla forma non tanto larga del governo, donc la position des grandi qui désirent revenir aux formes institutionnelles d'avant 1434, d'avant la domination médicéenne. Se nella deliberazione degli uomini non fosse stata mescolata l'autorità divina, per la bocca di Geronimo Savonarola da Ferrara, frate dell'ordine dei predicatori. Allora, costui, voyez, là c'est quand même bien longtemps après les événements, etc., avendo esposto pubblicamente il verbo di Dio più anni continui in Firenze e aggiunta a singolare dottrina grandissima fama di santità, aveva appresso la maggiore parte del popolo vindicatosi nome e credito di profeta. Perché nel tempo che in Italia non appariva segno alcuno se non di grandissima tranquillità, rappelez que ça, cette prédication commence en 1484, cette idée que l'Italie va être flagellée, que l'Église doit être réformée. Donc précisément, à un moment où l'Italie est in modo bilanciata, après pendant les 40 années qui suivent la paix de Lodi jusqu'en 1494. Aveva nelle sue predicazioni predetto molte volte la venuta di eserciti forestieri in Italia, con tanto spavento degli uomini che non resisterebbero loro né mura né eserciti, affermando non predire questo e molte altre cose le quali continuamente prediceva per discorso umano né per scienza di scritture, ma semplicemente per divina rivelazione. E aveva accennato ancora qualche cosa della mutazione dello Stato di Firenze. E in questo tempo, detestando pubblicamente la forma deliberata nel Parlamento, affermava la volontà di Dio essere che esordinasse uno governo assolutamente popolare e in modo che non avesse a essere in potestà di pochi cittadini alterare né la sicurezza né la libertà degli altri, talmente che, congiunta la riverenza di tanto nome al desiderio di molti, non potettono quelli che sentivano altrimenti resistere a tanta inclinazione. Donc voilà l'hypothèse du rôle déterminant de Savonarola. Alors là, on a... vous savez que le Grand Conseil est mis en place par les lois du 22, 23, 24 décembre. Vous voyez que là également, Guicciardini insiste sur un point important qui est donc fare usare la clemenza, et donc le mot d'ordre de l'époque, de cette époque, le mot d'ordre savonarolien, c'est pace, dico pace, Firenze, non far sangue, non far sangue. Donc, l'hypothèse de l'union dans la cité. Et l'hypothèse de la clemenza, la miséricorde. Dieu a fait preuve à notre égard de clémence et de miséricorde en bouleversant le stato de la cité, mais sans que le sang ne coule, nous devons nous-mêmes, dans cette dialectique dont je vous parlais tout à l'heure, entre l'action des hommes et l'action de Dieu, nous devons nous-mêmes faire preuve de clémence et de miséricorde, et donc ne pas exiler, ne pas condamner les partisans du vecchio stato, les partisans des Médicis. Alors, il y a la clemenza de Dieu, mais il y a aussi la giustizia. Et donc, un des points importants qu'il faut avoir en tête, c'est que donc, Savonarole agit dans le monde du politique, dans le monde des rapports de force, avec des instruments de pensée, qui sont les instruments de pensée de la théologie. Et donc, là, il a un couple, clemenza, giustizia, miséricordia, giustizia, qui va utiliser en fonction des situations politiques. Parce que, évidemment, la cité va se structurer avec de grands regroupements, dont la mise en place va s'accélérer avec les événements de l'extérieur, puisque évidemment Florence est tributaire. On l'a vu à tout instant quand on a fait cet excursus là, sur l'histoire de Florence de 1494 à 1537. Tout instant lié très très intimement à la situation italienne et en l'occurrence à la situation européenne, puisque sur le territoire italien, c'est la grande rivalité entre Français et Espagnols qui va jouer sur la longue période. Donc un des points qui va faire en sorte que les ennemis de Savonarole, enfin ceux qui là, simplement, quelli che sentivano altrimenti, quelli che sentivano altrimenti, vont se structurer en espèce de force politique opposée à la direction par les Savonaroliens et les gens qui se reconnaissent dans cette volonté du governo assolutamente popolare. Un des éléments, c'est en 1495, donc très tôt, enfin le 31 mars 1495, on le sait, quelques jours plus tard à Florence, la signature de la Ligue des États italiens et, même s'ils ne participeront pas à la bataille que va livrer cette Ligue aux Français, qui va se dérouler quelques mois plus tard à Fornoux, qui va se dérouler en juillet à Fornoux, l'empereur et le roi d'Espagne. Donc il y a Milan, Venise et le pape qui vont fournir des troupes. La Ligue est signée à Venise. Donc Milan, Ludovic le Mort, qui avait appelé Charles VIII, mais qui voit là les dangers, Venise qui les voit également, le pape qui a été contraint de laisser les troupes françaises passer sur ses terres pour aller prendre Naples, et puis deux puissants seigneurs étrangers, l'empereur Maximilien et le roi d'Espagne. Et là, voilà, vraiment le début de ces guerres d'Italie, dont l'Italie est l'enjeu même entre les grandes dynasties européennes. Donc là, en gros, voilà, il y a la mise en place d'un groupe, donc quelli che sentivano altrimenti, qui vont peu à peu recevoir un nom, hein, Arrabbiati, gli Arrabbiati, les enragés, enfin. Ces Arrabbiati, ce sont essentiellement des membres des grandes familles qui trouvent que, évidemment, on a trop insisté sur l'aspect popolare, assolutamente popolare, hein, du gouvernement, que les gens, les uomini da bene, dont ils font partie, n'ont pas la place qui doit leur revenir dans la cité, et donc ils vont former un groupe qui va être présent continuellement, enfin, pendant toute la période 1495-1498, et qui finiront par l'emporter contre les partisans du frère, les Frateschi. Hein. Donc Frateschi, Arrabbiati, et puis Savonarole lui-même désigne, hein, des ennemis dans le champ de la religion, on pourrait dire, hein, dans le champ de la religion, même si évidemment, hein, ce champ de la religion tend pour lui à occuper l'ensemble de l'espace. Ses ennemis, ceux qui désignent très tôt, là, hein, en avril, non, le 31 mars, il y a la signature de la Ligue. En avril, le frère désigne les tièdes. Hein, les tièdes. Donc, les tièdes, c'est ceux qui sont chrétiens en apparence, mais qui sont des instruments du diable en réalité. Enfin, ouais, hein. Vous vous souvenez que c'est une citation de l'Apocalypse, enfin, à un moment où l'ange s'adresse à l'église de Laodicée et lui dit « Je te vomirai de ma bouche car tu n'es ni froid ni chaud, mais que tu es tiède. » Ouais, tiède, c'est ça. Il y a toute une théorisation de Savonarole sur le moment dans lequel on est, qui est le quatrième état de l'Église, celui des tièdes. Et le combat, il y a un combat. Et alors, à mener, qui est à la fois un combat spirituel, hein, mais qui, probablement, sera aussi un combat temporel contre ces tièdes, de façon à ce que, par la victoire définitive sur les tièdes, l'Église puisse se renouveler, hein, puisse se réformer, retourner à la force des temps originels, hein, l'Église primitive. Et à ce moment-là, comme vous le savez, il y aura une espèce de propagation, hein, sur le monde entier. C'est-à-dire, donc, une espèce d'emboîtement, hein, de passage, le fusionnel à un endroit, la victoire à un endroit, des vrais chrétiens contre les tièdes, à Florence, avec une forme de gouvernement voulue par Dieu, s'étendra à toute l'Italie, à toute l'Église, puis au monde entier, puisque les infidèles, voyant un tel bien, ne pourront que se convertir également. Voilà. Donc, à partir de là, dans le couple Clemenza Giustizia, c'est Giustizia qui passe comme mot d'ordre principal. Fa giustizia. Hein? Fa giustizia, Firenze. Oh frate, tu non saurais dire così. Hein? Dans ses sermons, il introduit le contradicteur qui lui dit, mais tu disais pas ça avant, tu disais clemencia. Ben oui, mais les temps, hein, les temps obligent à penser que dans certains cas, la clemenza est piuttosto demenza che clemenza. Hein, bisticcio sur clémentia dementia. Comme ça, je vous signale qu'on retrouve ce bisticcio dans des ricordi de Francesco Guicciardini. Hein. Mais l'origine, elle est dans des sermons de Girolamo Savonarola. Bon, alors, on est dans cette situation, un des moments importants de transformation, hein, c'est en 1497 qu'il advient. En 1497, plusieurs éléments importants. D'une part, les Frateschi, hein, ou pour leurs adversaires, les Piagnoni, les Pleurnichards. Hein, Pleurnichards. Parce qu'ils pensent toujours, malheur, tu vois, la passion du Christ, ça les fait pleurer, etc. Donc les autres se moquent d'eux et les appellent les Piagnoni. Et les Piagnoni se structurent pratiquement comme un vrai parti, hein, comme un vrai parti, et un citoyen important, uno dei principali, hein, de la cité de Florence, Francesco Valori. Hein, devient le chef, hein, capo vraiment de ce groupe des Piagnoni. Alors le signal de ça, le signal du, c'est du fait que il y a un chef politique et plus seulement un chef religieux, enfin qui est Savonarola, mais qui est un chef politique, c'est quand Francesco Valori est nommé gonfalonier en janvier-février 1497, hein, et qu'il intervient très clairement en tant que gonfalonier en interdisant aux franciscains de prêcher, puisque les franciscains, hein, dans le langage des Savonaroliens, font partie de ces tiepidi, hein, qui en apparence sont religieux, mais en réalité, ils font le jeu du diable. Voilà. Deuxième élément important, c'est que en face, la situation dans la cité étant extrêmement tendu, il paraît possible de faire une opération coup de main de Pierre de Médicis pour que Pierre de Médicis rentre les armes à la main dans la cité. On pense, enfin les Médicéens pensent que, les partisans de Médicis pensent que voilà, dans une situation où en particulier, il y a des émeutes pour le pain dans la cité, etc. Si on dit que Pierre de Médicis va venir avec des chariots remplis de blé, il rentrera facilement dans la cité et sera accueilli par le peuple. Et il y a effectivement une tentative, hein, à la fin avril, une tentative donc de Pierre de Médicis qui se présente devant les portes de la cité. Et en fait, l'hypothèse de ses partisans ne se vérifie pas. Le peuple de Florence, qui reste très attaché à l'hypothèse du Grand Conseil, ne bouge pas. Et il est obligé de repartir. Enfin bon. Il est obligé de repartir. Le jour même, donc il vient le 27, il repart le 27 au matin, il repart le 27 au soir. Alors, tentative des Médicéens, structuration des Piagnoni, Troisième élément, structuration des Arabiati. Et cette structuration des Arabiati, elle se montre dans la Signoria de Mai-Juin, qui est dirigée par un Arrabbiato, qui s'appelle Piero degli Alberti, et qui interdit les prédications à Florence. Pas seulement celle des dominicains, mais aussi celle des dominicains. Et là, il y a un premier moment important qui est ce qu'on appelle dans l'historiographie il rumore dell'ascensione, ce jour-là. C'était le seul jour pendant toute la période des 2 mois dans lequel la seigneurie avait autorisé une prédication. Et Savonarole doit prêcher dans le Duomo. L'aile la plus radicale des Arrabbiati, qu'on appelle les Compagnacci. Hein, c'est les, voilà, c'est les Compagnacci, c'est les jeunes qui refusent d'être dans les fanciulli del frate, en gros. Hein, les jeunes au. Vraiment, c'est une période de temps assez large, hein, puisque l'hypothèse, c'est qu'on est adulte au moment où on peut rentrer dans le Grand Conseil et on est adulte à 29 ans, donc dans une période, hein, c'est les adolescents, ce qu'on nous on appellera les adolescents et les jeunes adultes, hein, c'est les fanciulli. Donc ces compagnacci interviennent dans l'église. Ils mettent le cadavre d'un âne sur la chaire où doit parler, mais enfin, les Savonaroliens s'en rendent compte avant, ils enlèvent le cadavre, ils nettoient, mais au moment où Savonarole parle, il y a des gens qui se mettent à se lever dans l'église, on se demande si on ne va pas se battre, etc. Et donc, ça donne ça. Hein. La situation, c'est donc que gli umori. Tutti di ribollivano, in modo che senza, essendo pubblica opinione, se avessi a fare qualche scandalo, predicando il frate la mattina dell'ascensione in Santa Liberata, si levò un rumore grandissimo, del quale non si trovò causa alcuna se non sospetto. Anche a Bugé, tel che tout le monde a cru qu'il allait avoir une bagarre générale. Essendo le grida grandissime, si vedde in lui, Savonarola, gran segno di paura. E alla fine, non potendo seguitare la predica, si ritornò a San Marco, accompagnato da molti cittadini con l'arme, fra i quali fu Giovan Battista Ridolfi con una arma in asta in sulla spalla, donc, une espèce de halbarde sur l'épaule. Hein, je vous ai déjà cité ce moment qui est vraiment pour les Florentins, le fait que, comme ça, une personne, un cittadino éminent, un cittadino, un uomo da bene. Hein. Un citoyen de qualité, etc., perdre la tête au point de traverser la ville avec une arme sur l'épaule en criant « Vive le Christ !» Là, c'est preuve que vraiment les choses, effectivement, ribollivano. Hein, les choses ribollivano. C'est arrivé à un point de tension, un point de tension extrêmement grand. Alors, vraiment, une année extrêmement riche en événements, hein, structuration dans l'ensemble des groupes, tentative militaire de Pierre de Médicis, et puis excommunication. Hein, excommunication par le pape Alexandre VI, parce que là, il a essayé tout ce qu'il pouvait pour le calmer, il lui avait interdit la prédication, et bon, les Florentins, finalement, avaient fait en sorte que cette interdiction soit levée. Il lui avait proposé un chapeau de cardinal, hein, à Savonarole, et là, l'autre, au lieu de dire ah, oui, bonne idée, avait fait un sermon d'une très grande violence contre la corruption de la curie romaine en disant oui, je veux bien un chapeau rouge, hein, un cappello rosso del sangue dei martiri. Enfin, voilà, hein, c'est ça, hein, voilà ce que je veux, c'est la seule chose, c'est le martyr, etc. Donc vraiment, il n'y a pas moyen de se. de discuter avec cet homme-là. Hein. Il n'y a pas moyen de discuter avec cet homme-là. Donc, là, il excommunie en juin. Ouais. Excommunie en juin. Et alors, là, il se passe quelque chose, là aussi, d'inouï. Hein, d'inouï. C'est que, comme l'explique là Savonarole, hein, comme l'explique là Guicciardini, pardon, eh bien, les partisans du frère vont signer une pétition, hein, donc vont se désigner comme effectivement membres des Frateschi. Voilà. Per dimostrare la innocenza sua, si fece in San Marco una sottoscrizione ai cittadini, i quali tutti affermarono lui essere vero e buono cattolico. Sottoscrissonsi circa 500. Non ne rimanendo indietro quasi niuno punto nominato di quella parte. Allora, vraiment, les forces en présence sont donc organisées et la tension monte. Le dernier point qui détermine hein, une situation qui ne peut plus désormais être réglée par discussion, etc., c'est la condamnation, en août de la même année, de 5 chefs des Bigi, condamnation à mort, dont un qu'on connaît, vous connaissez très bien, puisque c'est le principal interlocuteur du dialogue del Reggimento di Firenze, c'est Bernardo del Nero, et puis 4 autres, hein, qui sont condamnés pour avoir soit sollicité la venue de Pierre de Médicis en avril, soit, et c'est particulièrement la charge qui est retenue vis-à-vis de Bernardo del Nero, soit avoir su que des choses se tramaient, avoir su que probablement Pierre de Médicis ferait une tentative armée pour pénétrer dans Florence, et de n'avoir rien dit, alors même qu'à ce moment-là, il était gonfalonier de la cité. Alors, là, il se passe un point sur lequel Machiavel, dans les discours 1.45, insiste énormément, mais c'est pas le seul. Hein. Là, j'ai pris ce texte-là parce qu'il est particulièrement clair et net. Hein. Mais Guicciardini ne dit pas autre chose et dans la plupart des stories qui relate ce fait, tout le monde dit la même chose. Il y a un point supplémentaire hein, qui va rendre désormais impossible la possibilité d'une alliance éventuelle entre les partisans du frère et les anciens partisans des miliciens. C'est que les 5 miliciens sont condamnés à mort. À ce moment-là, ils demandent à bénéficier d'une des lois que Savonarole, entre autres, avait soutenu très très efficacement en mars 1495, qui était la loi sur l'appel devant le Grand Conseil. C'est-à-dire, dans les cas de condamnation per conto di Stato, la loi du 19 mars 1495, prévoyait que les condamnés puissent faire appel devant le Grand Conseil. Et là, là, on refuse, et en particulier, c'est le chef des Piagnoni, hein, qui nous dit, Francesco Ricciardini se lève et dit, o che morrebbe egli o che morrebbero loro. Hein. Et à ce moment-là, on obtient le nombre de voix nécessaires dans la signorie. Parce que ça se passe comme ça, il y a une pratique, hein, vous savez, un de ces grands conseils comme ça, où on demande à toute une série de citoyens, les élus des majori uffici, mais aussi des gens à qui on demande de venir, on leur demande leur avis. Là, l'avis de la pratique est très largement pour la peine de mort, mais il faut que la signorie entérine. Dans la signorie, ils n'arrivent pas à avoir, vous savez, il faut les seis fave, hein, donc les deux tiers, hein, puisqu'ils sont neuf. Notez bien que dans cette signorie, il y a Piero Guicciardini, le père de Francesco Guicciardini. Et que Piero Guicciardini est un de ceux qui refusent de voter la peine de mort. Donc, à un moment donné, donc, il y a une espèce de coup de force de Francesco Valori, qui fait que, par exemple, Piero Guicciardini est menacé. Il y a un des Piagnoni qui menace de le jeter par la fenêtre. Hein, vous voyez, la hauteur de l'étage où il y a le balcon. Donc, voilà. Apparemment, enfin, en tout cas, son fils dit qu'il continue, lui, à voter encore une fois non à la peine de mort la fois d'après, mais deux des. Ils étaient 5-4, hein, deux des gens qui votaient contre la peine de mort, craignant que les choses ne s'enveniment, etc., votent pour la peine de mort et ils sont exécutés immédiatement. Ils sont pendus aux fenêtres. Hein, de la signorie. On les balance par la fenêtre avec une corde. Voilà. Et alors, vous voyez comment Machiavel lit ça. Essendo Firenze, dopo il 94, stata riordinata nello stato suo, con lo aiuto di frate Girolamo Savonarola, gli scritti del quale mostrano la dottrina, la prudenza e la virtù dell'animo suo. Ed avendo, intra le altre costituzioni, per assicurare i cittadini, fatto fare una legge che si potesse appellare al popolo delle sentenze che per casi di Stato gli occhi della Signoria dessono, la quale legge persuase più tempo e con difficoltà grandissima ottenne, occorse che poco dopo la confermazione d'essa furono condannati a morte dalla Signoria per conto di Stato 5 cittadini. E volendo quelli appellare, non furono lasciati e non fu osservata la legge, il che tolse più reputazione a quel frate che alcuno altro accidente. Perché se quell'appellagione era utile, egli doveva farla osservare, se la non era utile, non doveva farla vincere. E tanto più fu notato questo accidente, quanto che il frate, in tante predicazioni che fece poi che fu rotta questa legge, non mai o dannò chi l'aveva rotta o lo scusò, come quello che dannare non la voleva, come cosa che gli tornava a proposito, e scusare non la poteva. Il che, avendo scoperto l'animo suo ambizioso e partigiano, gli tolse reputazioni e dettegli assai carico. No? Da Istre très acéré, enfin, de Machiavel. Hein. Là, c'est ça qui révèle que, au-delà de, hein, malgré les apparences, plutôt, malgré les apparences d'un discours pour l'union des citoyens, ce qui est derrière, c'est un esprit partisan, esprit de parte. Hein. Voilà. L'animo suo partigiano. Il che gli tolse reputazione. Hein. Alors, un dernier élément qui toglie réputation al frate, c'est, mais premier mois de 1498, le processus qui va venir à ce qu'on a appelé l'épreuve du feu, et du coup à l'attaque de Saint-Marc par les Arrabbiati et Compagnacci, et la chute définitive de Girolamo Savonarola. Mais vous voyez bien que là, la situation, en 97, hein, la situation s'est tendue, les partis se sont structurés, donc s'opposent en tant que tels, hein, il y a vraiment ce spirit partigiano, hein, redevient extrêmement, extrêmement vigoureux. Le pape est intervenu très, très nettement par l'excommunication, et la condamnation des cinq Médicéens empêche une possibilité d'accord médicéen savonarolien qui aurait permis d'isoler les Arrabbiati, et que donc il est probable, hein, que quelque chose va se passer, hein, que ces choses qui bouent, enfin, ribollivano, cette tension perceptible va amener rapidement à une vraie opposition. C'est-à-dire que de la guerre spirituelle, on va passer à quelque chose qui ressemble à une guerre temporelle. On va passer à une guerre con la spada, et pas seulement à une guerre avec des mots. Hein. C'est à ce moment-là, donc c'est pile dans cette circonstance, dans ces circonstances-là, que Savonarole écrit le Trattato circa il reggimento e governo della città di Firenze. Et qu'il faut avoir ça en tête quand on lit le texte. Hein. Donc on est dans cette situation-là extrêmement, extrêmement tendue. Alors, l'épisode donc d'avril 1498. Donc c'est un processus qui dure. Tout le début, tous les premiers janvier, février, mars, mais qui avait déjà eu des antécédents l'année précédente, qui est l'idée qu'entre les franciscains et les dominicains, il y a une espèce de montée, ça, de plus en plus d'affirmation, donc à un moment donné, les uns et les autres disent qu'ils sont prêts à rentrer dans le feu pour prouver la véracité de ce qu'ils disent. La différence, c'est quand même, les frères franciscains disent, nous on ira dans le feu, on brûlera, mais l'autre aussi. Puisque l'autre dit, non, pas de problème, nous on brûlera pas. Hein, nous on brûlera pas, et ça prouvera la vérité de du message dont est porteur frère Jérôme. Hein, voilà. Alors, discussion intense, finalement on décide de mettre en place l'épreuve du feu. Dont on a ce récit dans les Storie Fiorentine de Guicciardini. Donc, finalement, après toutes ces discussions, vraiment, il fallait se mettre d'accord, etc. Enfin, voilà. Il y a l'épreuve du feu. Donc, les Dominicains, le Dominicain, en l'occurrence, c'est donc Fra Domenico passe à travers le feu sans être brûlé, ça prouvera la vérité des thèses suivantes. L'Église va être flagellée puis renouvelée. Florence va être flagellée puis renouvelée. Les temps sont proches. L'excommunication de Savonarole par le pape n'est pas valable. Alors tout se met en place, finalement. Hein, el 10 deputato, che fu a 17 di aprile, che fu il sabato innanzi la domenica dell'Ulivo, no? Sendosi in sul mezzo della piazza dei signori fatto un palchetto pieno di moltissime legne, vennero i frati di San Francesco allora ordinati in piazza ed entrarono sotto la loggia dei signori, e poi i frati di San Marco, fra i quali erano molti parati cantando il salmo «Exurgat Dominus et dissipentur inimici eius». E con loro, fra Ieronimo, col corpo di Cristo in mano, a riverenza del quale erano moltissimi torchi portati da alcuni frati, da moltissimi secolari, e fu la venuta loro sì piena di devozione e così dimostrativa che venissimo allo esperimento con grandissimo animo, che non solo confermò i partigiani sua, ma etiam fece balenare gli inimici. Là, c'est arrivé, là, elle est présente dans tous les textes de l'époque qui rapportent l'épreuve du feu. Carter. Ils arrivent vraiment avec... C'est une force de conviction très très grande. Sauf qu'évidemment, à partir de là, il y a un débat, parce que les franciscains refusent que le dominicain rentre avec le corps du Christ, enfin, c'est-à-dire le ciboire avec l'hostie qui représente, enfin pas qui représente, excusez-moi, qui est le corps du Christ. Hein, qui est le corps du Christ. Donc là, il y a un débat très très grand, qui fait que les autres là-dessus, les dominicains refusent de rentrer sans, enfin le dominicain refuse de rentrer sans le corpus domini, hein, et les autres disent c'est un sacrilège si le corps du Christ brûle, etc. Voilà. Et donc finalement, personne rentre. Hein, personne rentre, et alors là, je passe les... Personne rentre dans le feu. La fine che fu che dopo molti dibattiti, sendo ognuno ostinatissimo nella opinione sua e non vissendo forma concordargli, senza accendere non che altro le legne, se ne ritornorono a casa. E benché fra Girolamo montassi subito in Pergamo e dimostrassi che il defetto era venuto dai frati di San Francesco e che la vittoria era per loro, non di meno, parendo a molti che questa difficoltà del corpo di Cristo fosse stata piuttosto cavillazione che legittima cagione, assai degli amici sua in quel giorno si alienorono e lo universale gli diventò inimicissimo. Vous voyez, les deux éléments qui font perdre la réputation, hein, et donc perdre le consensus qui lui permettait de tenir, alors même qu'il a un rôle très, très étrange, enfin, hein, ce rôle de prophète désarmé, dont on reparlera, puisque c'est au cœur du chapitre 6 du Prince, de l'analyse que Machiavel fait de Savonarole. Et malgré ça, pendant ces 4 années, il arrive par l'arme, par la seule arme de la parole, à tenir, mais 2 éléments, un proprement politique, hein, le fait d'avoir pris une décision qui empêchait par la suite une possible alliance, et le fait d'avoir joué avec les convictions les plus profondes de la possibilité du miracle, avec cet échec de l'épreuve du feu, font qu'il y a un renversement total de la situation idéologique florentine, du soutien massif du peuple de Florence envers lui, et au contraire, informe che il di seguente, sendo molto delusi e svillaneggiati dal popolo per le vie pubbliche, e i fautori sue e gli inimici molto ingagliarditi per avere concorso dell'universale, l'appoggio dei compagnacci con le armi in mano e trovarsi in paraggio una signoria a loro proposito, accadde che il dì, in santa liberata, avendovi dopo sesinare a predicare un frate di San Marco, si levò quasi fortuitamente uno tumulto, il quale, moltiplicando per le città, come accade quando gli uomini sono sollevati e gli animi sospesi e pieni di sospetto, gli inimici del frate e dei compagnacci presero le armi e cominciarono a voltare il popolo a San Marco. Je vous passe le détail de la défense de Saint-Marc, chose qui pourrait être intéressante à réfléchir sur la question de la violence, la question des armes, la question de la force et de la place que peut avoir cette réflexion dans le traité, mais on y reviendra parce que vous savez que c'est une des phrases du traité, il dit à la violence, non si può rispondere con ragione. Donc c'est un point qu'on reprendra quand on commentera le traité. Toujours est-il que au bout d'un moment, la défense s'arrête parce que la signorie vient exiger que le frère Jérôme et quelques-uns de ses compagnons soient livrés. La défense s'arrête. Les Savonarole, frère Domenico et un autre frère qui s'appelle frère Silvestre sont emmenés à la Signorie. Il va y avoir le procès qui va se dérouler. Qui va se dérouler en deux temps. Premier temps du 9 avril au 17 avril, puis ensuite un procès, une deuxième séance d'interrogatoire le 21, 23, 24 avril. Enfin, procès ecclésiastique en mai, mené par les envoyés du pape. Ils sont condamnés à être dégradés et remis au bras séculier comme hérétiques, schismatiques, et pour avoir prêché des causes énormes, des choses bouleversantes, des choses qui transforment l'orthodoxie. Le 23 mai, frère Jérôme, frère Silvestre et frère Domenico sont pendus, leurs corps sont brûlés et leurs cendres jetées dans l'Arno. On va s'arrêter là pour cette partie. La prochaine fois, on prendra un peu la question des sermons de Savonarole et du sens de ces sermons. Et ensuite, on attaquera le traité proprement dit.